gloire. Oh, merci, Maître. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Seigneur, notre Père, tu es et tu restes, Seigneur, notre seul appui. Seigneur, notre Dieu, nous voulons maintenant te donner, Seigneur, l'occasion de nous parler. Après nous être réjouis en ta présence, Seigneur, après t'avoir encensé avec nos chants, après t'avoir apporté au Dieu notre adoration, après avoir exprimé notre reconnaissance, nous voulons maintenant, Seigneur, te demander de nous parler. Notre foi a besoin, Seigneur, de nourriture solide, celle qui vient de ta parole. Notre foi a besoin de ressources pour pouvoir croître, Seigneur, et nous permettre, ô Dieu, d'entrer de plein pied dans tes promesses et expérimenter ces choses. Et pour cela, elle a besoin d'être arrosée constamment, Seigneur, par ta parole. Notre conscience a besoin, Seigneur, d'être de plus en plus rendue sensible, affinée, pour pouvoir interagir véritablement avec toi. Et pour cela, notre conscience, Seigneur, doit être en contact permanent avec ta parole, avec ta pensée. C'est un moment solennel où nous voulons, ô Dieu, te tendre une oreille afin que tu nous parles. C'est un moment où nous voulons faire taire toute voix, à commencer par celle de notre propre conscience, pour nous concentrer sur ta parole. C'est un moment béni, puisque ta parole, ô Dieu, reste une bénédiction pour chacun de nous. C'est par elle que tu bâtis ton Église. C'est par elle que tu la rends, ô Dieu, semblable à toi. C'est par elle que tu la rends pure, semblable à toi, Seigneur. C'est par elle, ô Dieu, par cette parole qu'elle peut lutter contre toutes sortes de rides, toutes sortes de choses de nature à la corroder moralement et spirituellement parlant. Aide-nous avoir de vie qui soit soumise, Seigneur, à l'autorité de ta parole. Que ce soit la seule autorité que nous reconnaissons et sous laquelle nous restons, Seigneur, que ce soit sur le plan moral ou sur le plan spirituel, l'autorité de ta parole. Alors, parle-nous, Seigneur Tout-Puissant, fais-nous du bien par ta parole, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur, veuillez vous rasseoir, frères et sœurs. Seigneur est merveilleux. Vous savez que lorsque le frère a entonné ce chant qui fait partie du répertoire de Jeunesse à Mission, « Venez chanter au Seigneur », ça m'a ramené de nombreuses années en arrière. Et ça m'a rappelé en particulier un événement, car je me souviens que lorsque cela est arrivé dans les années 80, 86, je ne me souviens plus très bien, eh bien, j'étais en train d'écouter les chants de Jeunesse à Mission que nous chantions autrefois dans nos cultes, lorsque nous avions encore ce gros livre de chants qu'on appelait « J'aime l'Éternel ». Cet événement, je me souviens encore, c'était la mort du président mozambicain Samora Machel. C'était dans un crash aérien, voyez, alors que la nouvelle passait sur la chaîne de télévision nationale, à la radio nationale, moi j'étais en train d'écouter ce chant. Et à chaque fois que j'entends ce répertoire, eh bien, cet événement revient à moi. Mais ce que je veux dire, c'est que lorsque je chantais ça, je n'étais pas ce que je suis. Je n'étais pas marié, je n'avais pas d'enfant, voyez-vous. Je n'étais pas encore prédicateur de la parole de Dieu, mais lui était ce qu'il a toujours été. Et presque 30 ans plus tard, j'ai changé. La couleur de mes cheveux est en train de virer au gris. Est-ce la sagesse? Je vous laisse le soin de réfléchir à ça. Mais lui est resté le même. Et quand on a affaire à un Dieu comme celui-là, ça vaut la peine de continuer à croire en lui, de continuer à le suivre jusqu'au bout. Alléluia. Il ne change point, mes amis. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Gloire à Dieu. Je voudrais donc ce matin parler de l'Église de Jésus-Christ. Et ce thème est formulé, une fois de plus, sous forme interrogative. Le thème est, pour ce matin, Église transfigurée ou défigurée? Église transfigurée ou alors, hélas, l'Église défigurée? Tel est donc notre thème de ce matin. Et je peux vous avouer que lorsque je parle de choses en rapport avec l'Église de Jésus-Christ, il y a toutes mes entrailles qui se meuvent. Car s'il y a un thème qui tient particulièrement pour le Seigneur, c'est bien celui qui touche de près ou de loin à son Église, celle pour laquelle il s'est livré à la croix, celle pour laquelle il a envoyé son Saint-Esprit. Pour cette Église-là, il a tout fait. Alléluia. Et lorsque nous parlons de l'Église, eh bien nous parlons, mes amis, de quelque chose qui est plus que précieux aux yeux du Seigneur. Nous parlons de la seule entreprise sur cette terre et dans le temps et l'espace qui reste et demeure la priorité pour le Seigneur de gloire. Alléluia. Alors, cette Église, dans quel état se trouve-t-elle? Est-elle en train d'être transfigurée, rendue de plus en plus glorieuse, de plus en plus semblable à son maître? Rayonne-t-elle de la gloire de son chef, de celui qui est sa tête? Ou alors l'Église, avec le temps, alors qu'elle évolue à travers l'espace et le temps, est-elle en train d'être méconnaissable, d'être dénaturée, d'être corrodée, d'être de plus en plus enlaidie, rendue laide? C'est ce que nous allons tâcher de voir, mes amis. Je crois que les temps dans lesquels nous vivons devraient nous aider à avoir le discernement qui nous permette de voir si notre assemblée, la borne, est une assemblée, eh bien, de plus en plus transfigurée par le Seigneur, ou alors, sommes-nous une assemblée de plus en plus méconnaissable par le Seigneur lui-même? Église transfigurée ou défigurée, nous sommes dans Luc chapitre 9. À partir du verset 27 jusqu'au verset 36. Luc 9, 27 à 36. Nous lisons. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui se tiennent ici ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. J'ai déjà eu à parler de la notion de règne royaume. Ça traduit un seul mot grec, basileia. Selon le contexte, on le traduit par royaume lorsque la valeur spatiale prime et par règne lorsqu'il s'agit de la manifestation dynamique de Dieu. Vous voyez, mais hélas, dans les chefs de certains traducteurs, ce mot est souvent et très souvent traduit par royaume, mais ici, la traduction appropriée, ce règne. Quelques-uns qui se tiennent ici, dit le Seigneur, alors qu'il s'adresse à ses disciples, ne goûteront point la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu. 8 jours environ s'écoulèrent après qu'il eut dit ces paroles, puis Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il monta sur la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea, et son vêtement devint d'une éclatante blancheur, où se mit à resplendir comme la lumière de l'éclair, littéralement. Et voici que deux hommes s'entretenaient avec lui, C'était Moïse et Élie qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais ils se réveillèrent et virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait ce qu'il disait. Comme il parlait ainsi, une nuée vint les envelopper et les disciples furent saisis de crainte tandis qu'ils entraient dans la nuée. Et de la nuée sortit une voix qui dit, « Celui-ci est mon fils élu, écoutez-le. » Quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Les disciples gardèrent le silence et ne racontèrent à personne, en ce jour-là, rien de ce qu'ils avaient vu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Il y a des semaines d'ici, nous avions donc lancé un programme ici dans notre église, le Centre évangélique francophone La Borne, un programme dénommé Alpinisme spirituel. Ceux qui viennent régulièrement à nos réunions de la semaine se souviendront de tout ce que nous avons déjà appris, ce que nous avons appris, et nous sommes en train d'apprendre en escaladant le mont des Oliviers. Vous le savez, l'alpinisme est un sport qui est de plus en plus prisé, surtout en Occident. Sport qui consiste donc à escalader, à gravir les différentes montagnes et aller tutoyer leur sommet. Et pour les alpinistes professionnels, tutoyer les sommets les plus élevés de l'Himalaya, et en particulier le pic Everest, reste un de leurs grands objectifs. Et lorsque quelqu'un arrive, mes amis, jusqu'au sommet le plus élevé de cette chaîne de montagnes, l'Himalaya, et qui reste le sommet le plus élevé sur la Terre, eh bien, la personne ressent des sentiments tout à fait particuliers. Et dans la plupart des cas, la personne essaye d'immortaliser cet événement et il ramène des photos, des vidéos, etc. Quelle belle leçon pour nous. Et par rapport à cet alpinisme, nous avons donc été inspirés de lancer un programme qui ne consiste pas à aller escalader le mont Kilimandjaro, escalader le mont Virunga ou autre, mais plutôt l'alpinisme spirituel qui consiste donc à escalader, à gravir les différentes montagnes de la parole de Dieu pour aller découvrir, plus que découvrir, pour faire l'expérience de la pensée de Dieu révélée sur ces différentes montagnes. Gloire au Seigneur. Et aujourd'hui, et par rapport à notre thème, mes amis, j'aimerais que nous allions escalader les hauteurs du mont Tabor, appelé communément la montagne de la Transfiguration. Car il y a des raisons pour une telle escalade. Il y a des raisons, mes amis, pour l'Église de Jésus-Christ de pouvoir gravir cette montagne et d'aller rejoindre le Seigneur dans un moment particulier et de faire l'expérience de la Transfiguration. Surtout, dans ce temps que la Bible nous présente comme étant le temps de la fin, surtout dans ces jours qui sont les derniers, où nous observons, du moins pour ceux dont le discernement est alimenté par la parole de Dieu, pour ceux dont l'intelligence est constamment renouvelée par le Saint-Esprit au travers de la connaissance de la parole de Dieu, eh bien pour tout cela, l'Église passe de plus en plus par des moments difficiles, mais aussi par des moments glorieux, alléluia. Car je ne voudrais pas basculer dans la sinistrose, ni dans le catastrophisme, mais je sais que nous sommes, ou du moins l'Église, dans son ensemble, est de plus en plus secouée, mes amis, de plus en plus soumise à toutes sortes de pressions, alors qu'elle poursuit de manière glorieuse sa marche à travers l'espace et le temps, alors qu'elle avance vers ce jour où elle va connaître l'enlèvement, vers ce jour où enfin elle va aller rejoindre son Seigneur de gloire sur le nuage, alors que ce jour approche, cette Église pour laquelle Jésus est venu sur cette terre, cette Église pour laquelle il a donné sa vie à Golgotha, cette Église pour laquelle il a envoyé son Saint-Esprit pour s'occuper de son toilettage, pour veiller sur elle, pour la façonner, la modeler, et c'est au travers de la parole de Dieu. Alors que ce jour approche, mes amis, cette Église est de plus en plus soumise à toutes sortes de pressions qui viennent de l'extérieur, mais aussi à une pression intérieure. Elle est soumise à toutes sortes de forces extérieures, des forces négatives, des forces du mal, soumise à la pression du monde et de puissance des ténèbres. Le monde avec son influence mauvaise, ce monde qui est sous l'emprise des puissances des ténèbres, des puissances démoniaques, essaye, mes amis, d'exercer une pression sur l'Église. C'est ainsi que dans certaines régions du monde, eh bien, le monde est arrivé à faire croire à l'Église, mes amis, que des pratiques que la Bible condamne avec force, eh bien, étaient des pratiques révolues, et qu'aujourd'hui, vivant dans cette période de postmodernisme, eh bien, tout était désormais permis. C'est ainsi que des pratiques contre nature, comme l'homosexualité, sont de plus en plus acceptées. Et dans certains pays, tenir un discours de ce genre, vous vaudrez tout de suite la prison. Pour motif, soi-disant, d'homophobie. J'aimerais qu'on mette également le gens en prison pour adultérophobie. Voyez-vous? La pression est telle que, mes amis, si l'Église ne fait pas très attention, si notre Assemblée ne fait pas très attention, nous risquerions de céder à cette pression et de laisser cette influence macabre, funeste, mortifère, s'infiltrer dans l'Église. Le monde essaye par tous les moyens, mes amis, d'arrêter l'avancée de l'Église. C'est ainsi que dans certaines régions totalitaires, dans certains pays intégristes, les chrétiens sont de plus en plus persécutés. Les disciples de Jésus sont de plus en plus chosifiés. Et dans certains pays, tuer un chrétien est même un honneur, mes amis. Tout cela fait partie du plan funeste, du plan de l'enfer pour décourager quiconque de pouvoir un jour recevoir le Seigneur et entrer dans son Église. Alléluia. Mais il n'y a pas que la pression de l'extérieur. Qu'elle soit là, c'est normal. Car l'Église a vu le jour dans un contexte déjà d'hostilité. L'Église est appelée à avancer sur un terrain qui est déjà miné. Voyez-vous? L'Église a affaire à celui que la Bible nous présente comme étant le prince de ce monde. Donc ce n'est pas différent. Ce n'est pas étonnant que le monde puisse avoir une telle attitude. C'est le contraire qui aurait pu nous étonner, n'est-ce pas? Que le monde persécute l'Église, c'est normal quelque part. Car c'est dans la nature du monde, ce monde qui est sous l'influence des puissances démoniaques, c'est dans sa nature de s'opposer à tout ce qui vient du Seigneur, à tout ce qui vient de Dieu, à tout ce qui, de près ou de loin, touche au royaume de Dieu. Mais l'Église, c'est ce qui est terrible, et c'est ça ce qui est terrible, c'est qu'elle est aussi soumise à une pression intérieure. Aujourd'hui, l'Église est de plus en plus traversée par des courants philosophiques, des courants théologiques qui n'ont aucune base biblique. Aujourd'hui, l'Église fait face à des faux enseignements, fait face, mes amis, à toutes sortes de doctrines pernicieuses et mortifères, à toutes sortes de théologies abracadabrantesques. qui n'ont pour objectif, mes amis, que de déformer l'Église, que de la dénaturer, voyez-vous, que de la rendre laide, que de la corroder, de l'atrophier. Et en acceptant ces enseignements, mes amis, l'Église plonge dans la somnolence spirituelle. L'Église plonge dans un état de léthargie spirituelle et de torpeur morale. Car il n'y a rien à faire si l'Église veut continuer sa marche comme elle avait commencé au jour de la Pentecôte à Jérusalem, eh bien, elle n'a pas d'autre choix que de rester soumise à l'autorité seule du Christ. Alléluia. Gloire au Seigneur. Celui qui reste le chef de l'Église. De lors que l'Église se dote d'un chef, spirituel, religieux, tout ce que vous voulez, cette Église-là commence, mes amis, perd le cap et se tourne vers le monde. Elle doit rester attachée à son chef qui reste et demeure, le Christ Jésus de Nazareth. Celui qui bâtit son Église, celui qui en est le chef, et même nous qui prêchons, nous ne sommes que des serviteurs de l'Église. Alléluia. Nous qui prêchons cette parole, la seule qui est appelée à édifier le corps du Christ, la seule qui nourrit l'Église, nous ne sommes pas le maître de la parole, mais plutôt les serviteurs de la parole. Nous ne devrions pas demander à la parole de nous suivre là où nous allons, mais plutôt de suivre là où la parole nous amène. Amen. Car en suivant la parole, elle nous amènera tout droit vers le chef de l'Église, vers le Seigneur des Seigneurs, vers le roi des rois. Alléluia. Gloire au Seigneur. Tous ces enseignements, mes amis, qui sont de plus en plus donnés un peu partout, ont pour conséquence de dénaturer l'Église, de la déformer. C'est ça, défigurer. Défigurer, c'est dénaturer. Défigurer, c'est déformer. C'est de changer l'aspect de quelque chose en le rendant laid. Voyez-vous? Et c'est ça ce qui arrive. Or, que nous dit la parole de Dieu concernant l'Église? Cette parole nous dit dans Éphésiens 5 que le Christ a aimé l'Église. Le Christ aime encore son Église. Et lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas d'une organisation politico-religieuse. Lorsque je parle de l'Église, je ne parle pas, mes amis, d'un groupement religieux avec un chef intronisé, avec une capitale quelque part dans le monde. Lorsque la Bible parle de l'Église, parle de cet ensemble des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus, des hommes et des femmes qui marchent, non pas selon des décrets conciliaires ou autres, mais qui marchent selon la parole de Dieu, celle que nous trouvons dans la Bible, celle qui est la Bible. Le Christ a aimé l'Église. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est qu'un des serviteurs, un des grands serviteurs de l'Église a dit, le Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle. Vous vous rendez compte? Christ ne s'est pas livré pour une nation. Christ ne s'est pas livré pour une tribu ou une ethnie. Christ ne s'est pas livré, mes amis, pour une organisation quelle qu'elle soit. Mais la Bible est claire. Christ s'est livré lui-même à la croix pour son Église. Alléluia. Afin de la sanctifier. Voilà le but, sanctifier cette Église, la rendre de plus en plus semblable à lui, la sanctifier par l'eau qui lave, et cela par la parole. Gloire à Dieu. La vraie parole, celle que les apôtres ont prêchée, mes amis, c'est la même dont nous avons besoin aujourd'hui. On n'a pas besoin de nouvelles révélations. On n'a pas besoin d'une nouvelle onction. Nous avons besoin de cette vieille, de cette ancienne onction qui était descendue en ce jour-là à la Pentecôte. Celle-là, on en a encore besoin aujourd'hui. Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi la sanctifier? Pourquoi la rendre pure? Eh bien, la Bible continue. Pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, cette Église sans tache, cette église ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens 5, 25b à 27. Voilà, mes amis, l'œuvre que le Saint-Esprit est en train d'accomplir dans son église. Et il est fait par et au travers de la parole. Mais cette parole, eh bien, doit être interprétée de manière à rejoindre le Seigneur. Cette parole doit être conforme. Ou du moins, notre interprétation doit être conforme à l'interprétation de la parole comme les apôtres l'ont prêché. Mais aujourd'hui, mes amis, dans ces temps qui sont les derniers, les esprits séducteurs, comme Paul, encore un des serviteurs de l'Église, des esprits séducteurs, travaillent de plus en plus au sein de nos assemblées et contribuent par leur travail à déformer, à défigurer l'Église de Jésus-Christ. Si Paul pouvait revenir aujourd'hui, si Pierre pouvait revenir aujourd'hui et visiter nos différentes assemblées et assister à des prédications et des enseignements, croyez-moi, ils ne reconnaîtraient pas l'évangile qu'ils ont prêché. Croyez-moi, ils ne reconnaîtraient pas l'Église pour laquelle ils sont morts. Que ce soit Pierre, que ce soit Paul. Car aujourd'hui, nos assemblées qui se réclament du Christ sont de plus en plus méconnaissables, de plus en plus dénaturées. Dans nos assemblées, c'est l'homme qui règne. C'est le culte de la personne. C'est le culte du bishop. C'est le culte de l'apôtre. Dans nos églises, on fait tout pour que Jésus n'occupe pas la première place. Mes amis, les temps sont mauvais. Que Dieu nous aide à développer un certain discernement. Car ces esprits séducteurs travaillent. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui a mis en garde son fils dans la foi Timothée. Et au-delà de Timothée, c'est le Saint-Esprit qui nous met en garde contre ces esprits séducteurs qui travaillent à la destruction de l'Église. Des doctrines des démons. Toutes ces doctrines qui enseignent un autre évangile que celui que les apôtres ont prêché, mes amis. Aujourd'hui, c'est l'évangile de la prospérité. Aujourd'hui, mes amis, les gens prêchent pour le moi, alors que le moi doit être crucifié. Combien de prédications sur la croix de Jésus-Christ? On ne supporte plus de telles prédications. Pour beaucoup, ce genre de prédications sont ringardes, passéistes. C'était pour une autre époque. Maintenant, nous sommes le temps, soi-disant, du réveil. Maintenant, c'est le temps de la nouvelle vague. C'est le temps de la nouvelle onction. Et résultat, l'Église est de plus en plus impotente. Incapable de résister à la pression du monde. Incapable, mes amis, d'exercer l'influence d'être véritablement le sel de la terre. Incapable, mes amis, d'illuminer ceux qui sont dans les ténèbres. Incapable d'être véritablement la lumière du monde. Car dès lors que l'Église se détache de celui qui est la lumière, eh bien, quoi qu'elle ait le nom de Jésus dans la bouche, cette Église-là, eh bien, aura pris le chemin qui conduit tout droit vers l'obscurité, l'obscurité des ténèbres. Voyez-vous, ceux qui prêchent un autre évangile, ceux qui prêchent autre chose que ce que les apôtres ont prêché, voyez-vous, des enseignements qui détournent le gens de la croix de Jésus-Christ, des enseignements qui glorifient le moi, des enseignements qui mettent l'homme sur un piédestal, tous ces enseignements-là, mes amis, dans le contexte de l'Église, sont des doctrines des démons. Nous devons les rejeter absolument. On ne joue pas, mes amis, avec cela. Jésus lui-même a dit, un peu de levain, et toute la pâte est levée. Oui ou non? Un tout petit peu de levain, mes amis, eh bien, c'est la corruption. Il n'y a plus la crainte de Dieu. Voyez-vous? Il n'y a plus la crainte de Dieu. Les gens ne cherchent plus la sainteté. Mais parce qu'on ne leur plaît plus cela. Le mensonge n'est plus dénoncé. La corruption n'est plus dénoncée. Alors pour ne pas choquer, on essaye de recourir aux euphémismes. Voyez-vous, ce n'est pas la corruption, mais bon, je lui ai graissé un peu la patte. Hein. Dieu ne change point, mes amis. Des doctrines étrangères que les apôtres n'ont jamais prêchées et qui aujourd'hui sont enseignées un peu partout. Vous êtes bien placés, frères et sœurs, pour le savoir. Il suffit de tourner un tout petit peu de zapper et de tomber sur des cultes, des séminaires, etc., pour entendre des choses incroyables. Mais les gens suivent, voyez-vous. Un vent de séduction, voyez-vous. Tout cela, mes amis, ces fausses doctrines, ces doctrines étrangères, ces enseignements pernicieux ou autres, tout cela défigure l'Église. Tout cela rend l'Église laide. Tout cela dénature l'Église, la déforme. Tout cela contribue à la destruction de l'Église. Et pour éviter cette corrosion, pour éviter de tomber sous l'influence de tous ces faux enseignements, pour éviter, mes amis, ou pour résister à la pression du monde, surtout dans ces temps de la fin, l'Église n'a pas d'autre choix que de monter au mont Tabor. Alléluia. L'Église n'a pas d'autre choix que d'escalader les hauteurs du mont Tabor et de tutoyer son sommet et de rencontrer son Seigneur de gloire. Là, dans cette expérience que la parole de Dieu appelle l'expérience de la transfiguration, le Tabor, voilà le lieu où l'Église doit aller. Le Tabor, c'est le seul endroit où elle va connaître cette expérience de transfiguration, non pas une fois, mes amis, mais où elle va aller de transfiguration en transfiguration, de gloire en gloire, alléluia, de victoire en victoire. C'est là, sur le mont Tabor, que l'Église peut véritablement rayonner de la lumière du Christ. C'est là qu'elle peut resplendir de sa gloire. C'est là qu'elle peut contribuer à apporter le réveil, là où il y a l'endormissement, il y a la léthargie, il y a la somnolence spirituelle et morale. Ce n'est pas en adhérant à un mouvement qu'on appelle les églises de réveil que nous allons être réveillés. Dans la plupart des cas, ces églises qui se réclament du réveil ne sont que des marchands de somnolence et de sommeil moral et spirituel. Voyez-vous, heureusement qu'il y a parmi ces églises qui portent ce nom-là, qui sont dirigées par des hommes qui sont des véritables serviteurs de Dieu, qui prêchent cet évangile du Christ, que Dieu bénisse ces églises-là. Alléluia. Que Dieu assiste tous ceux qui restent encore attachés à la croix de Jésus. Et non pas à toutes sortes d'enseignements ou de phénomènes des mondes. Dans la vie, il faut avoir une personnalité. Voyez-vous, ne pas se comporter comme un caméléon. Aujourd'hui, on essaie de copier des pratiques qui viennent je ne sais où. On vend des bouteilles d'huile d'olive. Ça devient du commerce. Vous pensez que Dieu agirait parce que vous vous êtes aspergé d'un peu d'huile d'olive? Dites-moi. D'abord, ce n'est pas à la portée de n'importe quel portefeuille. Hein. Oui ou non? Si Dieu devrait agir uniquement sur base de l'huile d'olive, alors il aurait permis que l'huile d'olive soit cultivée partout. À commencer par ici, chez nous. Il n'y en a pas. L'huile que nous trouvons sur le marché est importée. Et tout ce qui est importé coûte un peu plus cher que les produits locaux, oui ou non? Alors comment Dieu agirait-il de cette manière? Et dans les pays nordiques, au Groenland, mes amis, les gens feraient quoi? Où il neige toute l'année. Pas moyen de planter d'olives, des oliviers. Mes amis, nous devons arrêter avec tout ça. Je crois dans l'onction d'huile. Alléluia. Mais je ne crois pas dans cette pratique qui consiste à vendre et à faire croire aux gens qu'ils sont bénis parce qu'ils se baladent avec un petit flacon d'huile d'olive dans leur poche. On peut avoir ce flacon et se retrouver dans les bras d'une prostituée. Ce n'est pas ça qui nous protégera. C'est notre relation avec Christ. Et cette relation née avec Christ, eh bien, est grandie en Christ lorsque sa parole occupe la première place en nous. Et sa parole a décrété la mort du moi. Et tout ce qui tend, mes amis, à réveiller le moi, à l'encenser pour le rendre insensé, tout cela doit être rejeté. L'Église doit monter au mont Tabor. C'est là qu'elle peut véritablement rayonner. Et c'est ça, mes amis, une des grandes leçons que nous trouvons dans ce passage, où le Seigneur reprend une fois de plus ses trois disciples, Pierre, Jean et Jacques, et il les amène sur cette montagne. Non pas pour assister à un spectacle, mes amis. J'insiste là-dessus. Il ne les a pas invités pour qu'ils puissent se livrer en spectacle, pas du tout. Il ne les a pas invités pour qu'ils soient des simples spectateurs, pour qu'ils assistent à un show. Or aujourd'hui, quand vous regardez certaines réunions, c'est des véritables shows. Mes amis, que Dieu nous garde, que nous soyons matures, que nous ayons le discernement pour essayer de voir que là, malgré tout le décor, là, malgré toute l'apparence, là, le Seigneur n'est pas là. Voyez-vous? Là, on monte à bord, il les a amenés. Et il est entré dans une relation toute particulière avec le Père, par la prière, dans un esprit de prière, et avec la prière. Alléluia. Et la Bible nous dit, pendant qu'il priait, lui, le Seigneur de gloire, sur le sommet du mont Tabor, pendant qu'il priait, la Bible nous dit que l'aspect de son visage changea. Son visage se mit à rayonner comme la lumière du soleil. Alléluia. Non seulement son visage, mais la Bible nous dit que même ses vêtements se mirent à briller de la lumière de l'éclair. Littéralement. Avez-vous déjà vu la lumière d'un éclair? Si cette lumière pouvait faire ne serait-ce que 30 secondes, une minute, eh bien ça abîmerait votre vue, n'est-ce pas? C'est comme lors des éclipses. Ouais. Pour contempler l'éclipse solaire, voyez, eh bien les gens mettent des lunettes appropriées. Parce que la réflexion du rayon du soleil pourrait affecter très sensiblement la vue de quelqu'un et vous faire perdre votre vision. Voyez? Il les a amenés et là, il a commencé à resplendir. Alléluia. Il a commencé à resplendir. Mais pendant qu'il priait, pendant qu'il était dans cette expérience extraordinaire, la Bible nous dit que ses trois disciples dormaient. Et tout d'un coup, ils se sont réveillés. Pierre, Jean et Jacques se sont réveillés. Ils sont sortis de leur sommeil, non pas parce qu'il y avait un concert de louanges et d'adoration. Ils sont sortis, mes amis, de leur sommeil parce que ils ont été irradiés par la lumière qui émanait de la personne du Christ. Ils ont été irradiés, mes amis, par cette gloire qui resplendissait au travers du Christ. Et c'est cela qui les a amenés au réveil, qui les a fait sortir de leur état de somnolence, d'endormissement ou de léthargie. Appelez cela comme vous voulez. Mes amis, c'est ce rayon-là. Lorsque Jésus a commencé de rayonner, lui la lumière du monde, mes amis, eh bien c'est lui la lumière, ou sa lumière qui a réveillé ces trois disciples qui étaient plongés dans le sommeil. Et aujourd'hui encore, mes amis, il n'y a pas de réveil si Christ ne retrouve pas sa place dans l'Église. Il n'y a pas de réveil si nous ne laissons pas Jésus rayonner de sa gloire parmi nous. Or, Jésus ne peut pas rayonner si nous ne nous soumettons pas à l'autorité de sa parole. Voulons-nous vivre des choses extraordinaires? Voulons-nous que cette parole, la Bible, devienne une réalité palpable, tangible pour nous? Il n'y a pas d'autre secret, mes amis. Point de besoin d'aller je ne sais dans quel pays pour expérimenter cela. La Bible nous dit, alors qu'il était sur le mont des Olives, sur le mont Tabor, alors qu'il commençait à rayonner de la gloire, de sa gloire, quelque chose va se passer. Moïse, Élie apparaissent dans la gloire. L'un à gauche, l'autre. Vous pouvez vous imaginer la réaction de Pierre, la réaction de Jean et de Jacques. Eux, hébreux de naissance, juifs pratiquants, eux qui étaient familiers, mes amis, de la Torah, qui connaissaient très bien ce que la Torah enseignait à propos du prophète Élie et à propos de Moïse, le grand conducteur d'Israël. La connaissance livresque qu'ils avaient est devenue une réalité visible. Alléluia. Moïse était là en chair et en os. Élie était là en chair et en os, mes amis, non pas au-dessus du Christ, mais où c'est? De part et d'autre. Et qui est au centre? Jésus et Jésus seul. Alléluia. Et même lorsque Pierre et les autres, peut-être éblouis par cette lumière, par cette gloire, ont commencé à regarder Moïse et Élie, certainement ils se disaient, mais c'est pas possible. C'est lui, Élie, celui qui avait été enlevé dans un char de feu, celui Moïse, le grand législateur. Seigneur, si nous pouvons rester ici, je construirai 3 tentes. Une pour Moïse, une pour Élie et une pour toi. Ils essaient de regarder le 2. Tout d'un coup, mes amis, une nuée vient prendre Moïse et Élie. Jésus reste seul et la voix s'adresse à qui? Celui-ci, qui Moïse? Celui-ci, qui Élie? Malheur à ceux qui courent après des prophètes pour les adorer. Malheur à ceux qui cherchent à adorer un ange. Celui-ci est mon fils élu. Écoutez. Écoutez. Qui? Il n'y a que Jésus, mon frère et ma sœur. C'est lui que nous devons écouter. Or, aujourd'hui, on essaie d'amener les gens à écouter plus la voix des prophètes. Et dans la plupart des cas, des prophètes manipulés par des esprits séducteurs. Or, aujourd'hui, les gens écoutent de plus en plus les hommes. Vous trouverez des responsables religieux, des pasteurs qui se comportent en directeurs de conscience des gens, qui décident ce que tel frère ou tel frère va épouser. Ce n'est pas notre devoir de dire à telle sœur, Dieu m'a dit que tu vas épouser tel frère. De telles pratiques ne sont pas bibliques. Le pasteur ne devient pas un deuxième Jésus. Toujours Dieu m'a dit, pour essayer un peu de donner du crédit à ce qu'ils disent. Écoutez-le. Église, comprends-moi. Si tu veux rayonner de ta gloire, si tu veux être une église transfigurée, une église sainte, une église pure, une église sans tache, une église sans rides, il n'y a pas d'autre solution que d'écouter celui-là à qui le Père a rendu hommage. Jésus, Jésus, Jésus seul, toujours Jésus. Nous, nous passerons. Les apôtres sont passés, les prophètes sont passés, mais lui demeure éternellement. C'est celui-là que nous devons écouter. Quel que soit le prix. Et écouter ici, ce n'est pas dans le sens simplement de tendre une oreille. Ah, c'est formidable. Ah, j'écoute. Hein, comme on écoute le chant des oiseaux. Hein. Je m'écoutais ça quand je prie tôt le matin. Il y a toujours, comme il y a quelques arbres à côté, là, chez le voisin, vous les entendez. Ces oiseaux qui crient, ça fait du bien. Voyez? Voyez? Ils louent le Créateur. Hein. Toute la nature loue le Créateur. Oui. Pas écouter, c'est dans le sens d'obéir. Écoutez-le. Obéissez-lui. Mes amis, celui qui est appelé à être le cœur de l'Église. Celui qui est appelé à être le sang divin dans son corps. Celui qui est appelé à être la tête. Celui, mes amis, qui est à la base de tout. Et nous ne pouvons pas rayonner de la gloire de sa gloire. Nous ne pouvons pas resplendir de sa lumière si nous ne l'écoutons pas, si nous ne lui obéissons pas. Mes amis, si Christ n'est plus le centre d'une assemblée, eh bien cette église-là, quoi qu'elle reçoive toutes sortes d'enseignements, quoi qu'elle reçoive une onction, je ne sais pas, d'Élie ou de Mathusalem ou de Melchisédek, quoi qu'elle reçoive toutes sortes de choses, une telle église, eh bien, aura pris le chemin de la défiguration. Aura pris le chemin, mes amis, de la corrosion. Aura pris le chemin de l'égarement. Christ doit rester au centre. Alléluia. Paul pouvait dire aux Corinthiens, je ne voudrais savoir autre chose parmi vous. Je ne voudrais apprendre autre chose parmi vous qu'il y a 3-4 grands prophètes, qu'il y a désormais une onction extra-apostolique. Je voudrais connaître, je voudrais savoir parmi vous autre chose que Christ crucifié. Alléluia. Le Christ crucifié. La mort de Christ doit agir en nous, afin que sa vie aussi se manifeste en nous. Voyez-vous, il n'y a pas de vie sans mort. C'est parce qu'il est mort que nous avons la vie éternelle, n'est-ce pas? Et si nous voulons que cette vie puisse, mes amis, être vécue dans sa plénitude dans chacun de nous, si nous voulons que cette vie rayonne au-delà et nous amener à assumer notre vocation d'être la lumière du monde, nous n'avons pas d'autre choix que de mourir à nous-mêmes et de laisser le Christ vivre. Alors nous pourrions dire avec l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Ça, c'était, mes amis, l'objectif ultime des premiers disciples de Jésus, à commencer par ses apôtres. Ils cherchaient par tous les moyens à vivre Christ en eux, l'espérance de la gloire. Christ sur le sommet du mont Tabor, mes amis, resplendit. Et la conséquence ou les conséquences sont là. Vous pouvez méditer ce texte. La parole de Dieu est devenue vivante pour Pierre, Jean et Jacques, oui ou non? Enfin, Moïse n'est plus simplement un personnage du passé. Enfin, Élie n'est pas simplement une personne faisant partie du patrimoine historique d'Israël. Mais ils sont là vivants. Alléluia. Et au milieu d'eux, il y a encore le Christ. Est toujours le Christ, alléluia. Celui qui doit être au cœur de tout, au centre de tout. Et ensuite, ils ont été tirés de leur sommeil. Mes amis, il n'y a rien qui puisse, il n'y a pas d'antidote au sommeil spirituel en dehors du Christ lui-même. Et dire, et parler du Christ lui-même, c'est parler de sa parole, alléluia. Tel que nous l'avons reçu, voyez-vous, lorsque tu t'es converti, du moins ceux qui ont un certain âge spirituel, ce qui est cela n'a pas changé. Alors arrête de courir ça et là. Alors ne cours pas après les bénédictions. Je me suis interdit d'être parmi ceux qui bradent la parole de Dieu, qui la falsifient, qui la galvaudent. Je me suis interdit, et c'est ma prière, mes amis, de prêcher des choses agréables aux oreilles des gens, d'aller dans le sens qui plaît aux gens, pour ne pas me retrouver en train de créer des disciples qui se mettraient à suivre Jésus par intérêt, qui se mettraient à courir après les bénédictions, plutôt qu'à courir après Jésus et Jésus seul. Sur le mont Tabor, le temps presse. Le Seigneur attend son Église. Cette Église ne peut rayonner pour pouvoir résister à l'influence extérieure. Cette Église ne peut rayonner, ne peut briller véritablement pour éloigner d'elle Mes amis, la pression du monde des ténèbres, que dans la mesure où elle reste attachée à Christ, dans la mesure où Christ occupe la première place en elle, dans la mesure où elle meurt à elle-même pour vivre pour Jésus, alléluia. Cette Église ne peut résister à la pression intérieure de toutes ces fausses doctrines et de ce faux enseignement que dans la mesure où elle recherche le contact avec la parole de Dieu, celle qui tourne autour de la croix. Voyez-vous, les apôtres étaient tellement imbibés de la pensée de la croix qu'un des serviteurs du Christ a fini par appeler l'évangile de la croix, oui ou non? Le message de la croix, la prédication de la croix. Et croyez-moi, c'est de cette prédication dont nous avons besoin aujourd'hui. Alléluia. Nous devons mourir à nous-mêmes. Alors Christ va commencer à vivre. Église transfigurée ou défigurée, eh bien nous n'avons pas notre choix. Si nous voulons que notre assemblée, si nous voulons que les assemblées qui se réclament du Christ puissent ne pas courir le risque d'être déformées, dénaturées, bref, défigurées, être méconnaissables, eh bien nous n'avons pas d'autre choix que de monter au Tabor et là rencontrer le Seigneur, nous soumettre à lui, privilégier la prière qui a pour centre Jésus et Jésus seul, chercher à devenir la lumière, avoir de vie incandescente, alors la parole de Dieu deviendra vivante pour nous, alléluia. Ça ne sera pas des histoires ou des fables, voyez-vous, mais ça sera la parole qui sauve, la parole qui guérit, la parole qui libère, la parole qui apporte la bénédiction là où il y a la malédiction, alléluia. Alors, Église de Jésus, dans quel état es-tu? Église de Jésus, es-tu en train d'être transfigurée, allant de gloire en gloire, purifiée, sanctifiée par la parole, en te soumettant à Christ? Ou alors, as-tu cédé aux trompettes du monde des ténèbres? As-tu cédé, mes amis, à la pression du monde, où tu commences à essayer de te comporter comme les autres? Si tel est le cas, Église, repens-toi. Mon frère et ma sœur, si tel est ton cas, tu es de plus en plus déformé. Alors reviens au Seigneur et donne ta vie à lui. Alléluia. Nous inclinons nos têtes dans la prière. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier pour ta parole. Te remercier, Seigneur, pour nous avoir une fois de plus interpellés par rapport au Dieu, à notre responsabilité de tout faire pour nous soumettre à l'autorité de ta parole. Ô Dieu, tu nous interpelles quant à la nécessité de monter au Tabor, car c'est seulement là, sur les hauteurs du Tabor, au sommet du Tabor, avec toi comme centre de notre vie, avec toi comme, Seigneur, la force de notre vie, nous pourrions alors, rayonner de ta gloire, resplendir de ta lumière. Et cette lumière pourra réveiller ceux qui dorment. Cette lumière pourra apporter la vie là où il y a la mort. Aide-nous à rester attachés à toi. Seigneur, merci. Merci, Maître. En même temps, nous te prions, Dieu, de bénir au Seigneur ce service des offrandes, des dîmes, qui est plus qu'un simple service, mais une occasion pour nous de nous approcher de toi, pour te faire approcher ce que nous avons préparé. Bénis ce moment, Seigneur, en ton nom Jésus. Merci pour tout. Alléluia.